Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Yannick Bouchard.
2023. Vous savez que 2023, c'est le 30e anniversaire de la dernière conquête de la Coupe Stanley par le Canadien. Mais ça va aussi marquer le 20e anniversaire d'un fait d'armes incroyable. Il a remporté le Cy Young avec les Dodgers de Los Angeles et il passe la prochaine heure avec nous. Éric Gagné, en direct de l'Arizona, qui est avec nous. Salut Éric, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, t'es en forme?
Très, très en forme. Toi aussi?
Ben oui, je regarde une game de baseball, là, je regarde les Mets contre les Cards de St. Louis, bien avoir un home run.
Bon, on regarde le même match, Éric. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est bien apprécié. Ben avant de parler de ce que je viens de mentionner, le 20e anniversaire de ton Cy Young, je dis que tu es en Arizona, qu'est-ce qui occupe ton temps ces temps-ci, là?
Écoute, j'ai beaucoup de projets. Je travaille justement sur un podcast que je travaille avec Maxime Martin, que c'est nouveau pour moi. Tu sais, ça fait longtemps que je voulais m'impliquer un petit peu par rapport à soit parler de baseball, de rencontrer des jeunes. Fait que je me suis dit, on va partir un podcast avec Max, qui est un capoté de baseball.
Ouais.
Puis on essaie de donner une plateforme aux jeunes joueurs québécois, aux jeunes joueurs canadiens. Puis on parle de baseball un petit peu, de pas mal de tout. Puis on fait ça un petit peu, on joue au golf, beaucoup de golf. Là, Russell Martin, en plus, il est rendu ici. Il reste pas loin de chez nous. Fait que j'ai joué deux fois à date avec. Fait qu'on va jouer pas mal de golf ensemble. Puis je m'entraîne beaucoup. Fait qu'on reste occupé.
OK, pas mal occupé. Es-tu un bon golfeur, Éric?
Oui. Ça fait longtemps que je suis à retraite. Fait que j'ai joué beaucoup de golf.
Avec la pratique, ça aide toujours à être meilleur.
J'adore pratiquer. Fait que.
Ouais. Tu parles d'un podcast. Est-ce que ça a toujours été un rêve que tu caressais, ça, peut-être, de faire un bout de chemin dans les communications après ta carrière?
Non, pas vraiment. C'est complètement l'opposé de ce que je voulais faire. J'ai jamais aimé l'attention, j'ai jamais aimé parler énormément au monde, mais tu sais, c'est quelque chose que tu veux pas quand tu joues au baseball. Tu veux rester dans le baseball, il n'y a pas énormément d'options. J'ai coaché pendant 2-3 ans, j'ai fait beaucoup de choses avec B45, qui est ma compagnie de batte de baseball au Québec. Puis là, je me suis dit, gage avec Max, qui est capable du baseball, il vraiment connaît ça énormément. Moi, je suis le baseball, mais tu sais, c'est plus mon expérience, mais c'est le fun. Ça m'habitue aussi parce que c'est facile de répondre à des questions, mais poser des questions puis contrôler une interview, c'est vraiment complètement différent de ce que moi je pensais, puis ça me donne beaucoup de respect à ce que vous faites, votre de quoi.
Ah ben écoute, merci, t'es bien gentil, mais quand on a un bon invité comme toi, c'est pas trop difficile comme travail. Puis j'invite tout de suite les auditeurs, auditrices, si jamais vous avez des questions, des commentaires à l'endroit d'Éric, allez-y via la messagerie texte 98985. On va en prendre quelques-uns au cours de l'entretien. Tu parlais que ce podcast-là, entre autres choses, tu voulais donner la chance aux jeunes Québécois, aux jeunes joueurs canadiens également, de pouvoir s'exprimer. C'est important pour toi de redonner aux jeunes qui veulent faire carrière dans le baseball, Éric?
Ah ouais, c'est tellement valorisant. Parce que moi, depuis le début, quand je me suis rendu des majeurs, j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu beaucoup d'aide pour me rendre là. Puis je pense que c'est la moindre des choses que je peux faire, d'aider les jeunes, que ce soit de parler, les aider, puis, que ce soit en enfant, que ce soit mentalement, que ce soit juste parler de même, donner une plateforme comme j'essaie de faire avec le podcast. Mais j'adore ça, c'est tellement valorisant. C'est le fun d'avoir les jeunes, comme je me suis entendu, tu parlais justement de Jérémy Pilon, qui va être sur l'émission plus tard. Je me suis entraîné avec, j'ai entraîné lui. C'est le fun d'avoir des jeunes comme ça qui travaillent fort puis qui suivent un petit peu de ce qu'on a fait. Veux, veux pas, on est On est un petit peu des trailblazers. Les gars comme Claude Raymond qui nous ont ouvert les portes, les gars comme Derek Aucoin, Denis Boucher, tu sais, des joueurs comme ça qui ont tout fait rêver. Moi, j'ai tout le temps rêvé de lancer au Stade Olympique. J'ai eu la chance de faire ça deux fois. Tu sais, j'ai vu Denis Boucher lancer avec 40 000 personnes. Fait que, tu sais, veux pas. Je pense que c'est notre job. C'est notre job de redonner aux jeunes. Puis, je pense que c'est notre temps de donner une plateforme. Puis, juste essayer de les aider un petit peu.
Quand tu parles, tu as vu Jérémy Pilon lors de l'entraînement. Est-ce que tu le sentais impressionné? Comment ça s'est passé, vous deux, quand tu es ensemble sur le terrain avec lui?
Ben non, c'est ça qui était le fun. Tu arrives souvent, les jeunes, tu sais, veulent pas. Tu arrives là, tu as un joueur de baseball professionnel qui essaie de genre de coacher un peu, puis c'est un petit peu intimidant. Moi, je vais dire de quoi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment intimidé, mais Jérémy, il avait un petit peu essayé, il était différent. Tu vois, c'est un bon lanceur, il a vraiment énormément de confiance, puis son talent est incroyable en main gaucher, il en fait vraiment fort, il a vraiment une bonne courbe, puis il travaille fort. Fait que, tu sais, c'est le fun de le voir, d'avoir signé avec les Rays, puis c'est une bonne équipe, c'est une belle organisation. Mais tu sais, c'est un joueur comme ça, c'est rare qu'on voit ça au Québec. C'est un des meilleurs lanceurs que j'ai vu au Québec depuis un long, ça fait vraiment longtemps.
On t'entend parler depuis tantôt, Éric, puis écoute, je doutais pas, mais je pensais pas encore que cette passion-là était aussi présente en toi. T'es encore aussi passionné que c'est sûr que c'est différent, mais que quand tu jouais finalement?
Je pense que je suis plus passionné. Je pense que tu veux pas, quand tu joues, tu essaies juste d'avoir t'occupes un petit peu de ton affaire, de faire des retraits, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est complètement différent. Surtout quand tu n'es plus dans le game, t'as un angle vraiment différent de ce que tu. La façon que tu regardes la game, la façon que tu coaches, la façon que tu parles aux jeunes. Tu sais, veux pas. Faire des retraits, c'est une chose, mais être capable de. D'être un mineur, puis de parler comme ça. C'est vraiment une passion pour moi de redonner aux jeunes, puis c'est le fun. T'sais, j'adore ça. J'adore voir toutes les angles. Je suis propriétaire de B45, j'ai coaché. T'sais, j'ai vraiment beaucoup d'angles. J'ai été propriétaire un petit peu à Trois-Rivières avec les aigles de Trois-Rivières dans les ligues indépendantes. Fait que, j'ai joué indépendant, fait que j'ai eu beaucoup d'expérience là-dedans, puis je pense que c'est ma passion, le baseball. C'est ce que je connais le mieux. C'est toujours une place que je suis vraiment confortable, c'est en parlant de baseball ou en jouant au baseball ou en regardant le baseball, c'est ça que j'aime faire.
Éric, tu parles de ta compagnie B45, tu es un des propriétaires, puis on entend parler de B45 depuis plusieurs années. J'imagine que cette compagnie-là a pris beaucoup d'expansion depuis plusieurs années.
Mais écoute, ça a commencé avec Michel Laplante. Michel Laplante, ouais. C'est un des premiers. Je ne sais pas exactement à qui les autres propriétaires mais Michel, il a fait tellement de choses au Québec. Pas juste par rapport au baseball au bâton, mais par rapport à tout ce qu'on voit là au Québec, par rapport à la Ligue indépendante, les mineurs. Puis oui, ça fait. Quand je suis arrivé, il y avait un petit peu de misère, sauf que tu sais, veux pas, avec mon nom, ça l'aidait un petit peu, mais je vais te dire de quoi. C'est pas à cause que je suis là, parce que le monde qui travaille là, c'est vraiment du monde qui travaille fort, qui sont bien organisés, puis tranquillement, pas vite, tu sais, veux pas, c'est facile de mettre de l'argent là-dedans, puis tu penses que ça va partir. Mais je pense avec le monde qu'on a engagé, le monde qui était déjà là, puis je pense qu'on a vraiment fait une belle équipe ensemble. Puis veux pas, tranquillement, pas vite, mais les bâtons, c'est des bons bâtons. Fait que veux pas, les joueurs, c'est leur pièce qu'ils ont vraiment le plus besoin, les frappeurs. C'est vraiment aussi la superstition. Je pense qu'on a vraiment. Moi, je trouve que c'est le meilleur produit qu'il y a des majeurs. On a beaucoup de joueurs des majeurs qui l'utilisent. C'est vraiment du bon bâton. On est vraiment chanceux d'avoir du monde qui travaille comme ça avec B45.
C'est une fierté pour le Québec de savoir que des joueurs du baseball majeur utilisent les bâtons de cette compagnie-là. Tu es à la retraite depuis 2008. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu t'es aperçu là, okay, que c'était terminé ta carrière?
C'est drôle parce que je vais faire un podcast justement la semaine prochaine que je vais parler de ça un petit peu. C'est vraiment, quand t'enlèves le baseball, ce que j'ai fait depuis j'ai l'âge de 3 ans, c'est pas un job. Le monde, tu sais, nous voit, puis quand on joue, c'est vraiment l'émotion. Tous les jours, on va se coucher, on pense à chaque lancer qu'on a fait, on se lève à chaque fois qu'on mange, on pense à ce qu'on mange parce qu'on veut vraiment s'améliorer. À chaque fois qu'on s'entraîne, on pense à s'améliorer. Tu sais, c'est vraiment 24 heures sur 24, puis c'est sûr que quand vous nous voyez lancer sur le monticule, puis on donne 5-6 points, puis le monde est en mauvaise humeur parce qu'on était pourri. Tu sais, c'est plate, mais tu sais, c'est vraiment en ligne de mire. Ça fait vraiment longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis tu sais, quand t'enlèves tout ça au complet, la discipline de t'entraîner, des choses comme ça, c'est vraiment difficile. Mais ce qui me manque le plus, je pense, je veux dire, c'est vraiment d'être dans le club avec les joueurs. Puis c'est sûr que c'est long une saison, mais juste le fait de se connaître avec les hauts, les bas d'une saison, c'est vraiment d'amitié, vraiment différente. Tu respectes le monde en entour de toi parce que c'est vraiment, tu sais, t'as 25 joueurs dans ton clubhouse, puis quand toi ça va bien, mais t'essaies de, il y a du monde que ça va pas bien aussi, fait que t'essaies d'être pas mal le plus humble le plus possible. Tu sais, c'est le fun, c'est vraiment une belle expérience. C'est ça, je m'ennuie le plus d'être dans le clubhouse avec les joueurs, de voyager ensemble, puis l'esprit d'équipe qui me manque beaucoup.
Est-ce que t'as gardé contact avec d'anciens coéquipiers? Oui, OK, Russell Martin, ça, c'est correct, mais les autres, lorsque tu as connu ta saison de rêve avec les Dodgers et peut-être les autres années également, est-ce que tu as des bons amis qui sont encore dans ton entourage?
Oui, j'ai des bons amis. Écoute, Dave Roberts, je parle souvent. Écoute, le voir aller à Los Angeles, c'est vraiment incroyable. C'est un Hall of Famer. Qu'est-ce qui est impressionnant? Tu sais, il a tout le temps joué en arrière de Kenny Lofton, puis là, il va être un Hall of Fame manager. Un gars comme Alex Cora qui est allé avec les Red Sox de Boston. Mm-hmm. C'est vraiment une personne incroyable quand j'ai joué avec. Un joueur de baseball médiocre, mais son IQ de baseball est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Lui, sa famille, c'est vraiment un peu de baseball, mais son talent est un petit peu moins bon que beaucoup d'autres joueurs, mais il travaillait fort, il était vraiment intelligent, puis tu vois la façon qu'il coach. C'est ça, les meilleurs coachs. David Ross, la même chose à Chicago, j'ai joué avec. C'est vraiment un des bons gars dans le baseball. C'est un autre joueur que c'est un joueur de backup. Tu sais, les bons managers, ils savent comment c'est dur le baseball, puis je pense que des joueurs qui sont de backup sont un petit peu plus humbles, sont des meilleurs coachs un petit peu, je pense.
Éric, c'est bien parti. Il faut s'arrêter pour une première pause. On va revenir en entrevue avec toi dans quelques instants. Évidemment, on va revenir sur ta saison extraordinaire à laquelle ça a culminé avec ton Cy Young, tes 84 parties sauvegardées consécutives, évidemment. Donc, si vous avez des questions pour Éric Gagné ou des commentaires, la messagerie texte 98985. Il passe l'heure avec nous aux amateurs de sport. À tout de suite.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Welcome to the jungle. Ça, c'est lorsque Éric s'en venait au monticule pour fermer la porte à ses adversaires. Éric, est-ce que ça te rappelle de bons souvenirs?
Ça me donne encore des goosebumps, un peu.
C'est incroyable.
À chaque fois que j'entends la musique, ça me fait penser quand les portes ouvrent dans le bullpen.
Ah ouais.
C'est les fans, même, est-ce que c'est le fun à Los Angeles? C'est les fans se levaient avant que je me j'embarque, même avant que j'embarque. Tout le monde, vraiment, il se levait, ça me donnait de l'adrénaline, puis, tu sais, j'ai eu 84 en ligne, c'est incroyable, mais c'est les fans, à chaque fois que j'étais à la maison, là, tu vois, c'était électrique, c'était vraiment électrique comme feeling, puis l'adrénaline, c'est la meilleure drogue au monde, je sais quoi.
Alors, vous entendez la voix d'Éric Gagné, si vous avez des questions, des commentaires, la messagerie texte 98985. T'étais une superstar à Los Angeles, Éric, à un certain moment donné. T'as vécu ça comment, cette célébrité-là? T'étais une des personnes, des célébrités les plus en vue à Los Angeles, dans un monde où il y en a de la star au pied carré, on s'entend, là. Est-ce que toute cette attention-là, à un certain moment donné, ça t'a monté à la tête ou t'as réussi à garder les deux pieds sur terre?
Moi, j'aimerais ça dire que j'ai gardé les deux pieds sur terre tout le temps. C'est sûr que j'ai eu du fun. T'sais, j'ai eu vraiment du plaisir parce que j'étais marié, ce qui est vraiment plus facile. On va dire de quoi, j'aurais été célibataire à Los Angeles. J'aurais peut-être pas autant de bons chiffres. On va dire de quoi, parce que
ça, t'aurais peut-être dérapé.
peut-être, je sais pas. J'espère que non, là, mais j'aime croire que j'aurais été vraiment discipliné, mais c'est vraiment une belle expérience, une belle ville. Comme tu dis, il y a des stars partout. T'as la chance de rencontrer genre Lil Jon, Limp Bizkit, Tom Cruise, Justin Timberlake, tu parles de tout le monde, Cameron Diaz. Tu sais, c'est vraiment impressionnant, le monde, tout arrive là. Tu penses que c'est un big deal, tu penses que t'es vraiment un gros nom. parles à eux autres, t'es là, waouh, c'est incroyable. Fait que, c'est vraiment une belle ville, c'est le fun à jouer. Puis, j'ai vraiment été choyé de Los Angeles, de Boston, qui est une belle ville aussi, mais Los Angeles, c'était mon amour, c'est ma maison, my home away from home.
Retournes-tu souvent voir des matchs, par exemple, au Dodger Stadium? Ou vas-tu souvent à Los Angeles?
J'y vais, mais je vais pas souvent. Je vais plus à Los Angeles pour faire du shopping un peu.
Okay.
Mais pas pour voir les games. Mais je retourne au mois de septembre. Le 23 septembre, je retourne. Qu'est-ce qui est le fun? Ils m'appellent souvent parce que là, c'est pas le fun, c'est de valeur parce qu'il y a beaucoup d'anciens Dodgers qui sont décédés présentement. Fait que ça fait longtemps que on parle de Vince Scully, on parle de tous les anciens qui sont décédés, Murray Wells. Fait que tu sais, veux pas, c'est un des anciens qui a joué les Dodgers, puis il reste pas beaucoup. Fait que oui, je vais faire une couple de choses avec eux autres, c'est le fun. J'aime ça rester avec eux autres parce que c'est vraiment une équipe que je respecte, puis ils m'ont toujours respecté. Fait que j'ai vraiment des belles mémoires, puis je vais deux, trois fois par année environ.
13 novembre 2003, 27 ans, Éric Gagné de Mascouche, qui devient le premier Québécois à remporter le trophée Cy Young. 20 ans plus tard, qu'est-ce que ça te fait quand tu penses à ça?
C'est fou parce qu'on dirait que ça a passé tellement vite, 20 ans. Puis quand j'étais là-dedans, tu sais, c'est, comme tu disais, ça m'a monté, tu sais, on parlait, ça m'a monté en tête à Los Angeles. On dit, t'es trop concentré sur ta job, t'es trop concentré un petit peu, fait que t'as pas le temps vraiment de savourer. Là, ça fait peut-être un 2, 3, 4 ans. Que je savoure ce que j'ai fait. J'ai travaillé fort, même il y a du monde qui m'ont dit à cause du Metro Report, des choses comme ça, mais tu sais, ça fait longtemps là, que j'ai regretté tout ça. C'est passé par des choses qui n'étaient pas le fun. Je voulais pas regarder, je regardais pas mon Cy Young, tu sais, il y a des choses. Mais là, après, j'ai 47 ans, ça fait 20 ans, puis c'est vraiment quelque chose de spécial. Je l'ai en arrière de moi, justement, quand on parle. Là.
C'est vraiment spécial. Écoute, tu dois être, tu sais, dans toute ton humilité là, de tes 47 ans, tu dois être, quand tu te retournes et tu regardes ça, écoute, tu dois être fier de voir ce que tu as accompli puis de ce que tu as réussi à faire, le premier Québécois à remporter ce trophée-là.
Ah, mais c'est une grosse honneur. Que tu regardes les noms, j'ai eu la chance cette année d'aller en Ohio, qui est la place que Cy Young est né là, puis okay. Il est décédé là, Cy Young. C'est vraiment incroyable. Ça faisait 100 ans cette année, je pense, en 1903, je pense.
OK.
Non, entre ça. 1923, je pense.
1923.
C'est vraiment incroyable. Puis là, j'ai regardé ces statistiques, puis c'est vraiment incroyable. C'est juste le fait de dire que j'ai gagné Cy Young. C'est vraiment un privilège, c'est une honneur, c'est fou qu'un gars de Mascouche qui a toujours voulu être un joueur de hockey, qui a gagné le Cy Young à Los Angeles, c'est vraiment le fun, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment, pour moi, j'y crois pas encore, mais écoute, il est dans mon office, il est là, fait que j'y crois.
Ben oui, c'est à toi, puis personne peut te l'enlever. Est-ce que tu sais si les Dodgers veulent faire une petite fête avant la fin de la saison, afin de se remémorer ce 20e anniversaire-là, ou t'as pas eu vent de rien?
J'ai pas eu vent de rien encore. Fait que je sais pas s'ils vont faire quelque chose. Ils m'ont invité pour faire un contre les Giants. Ils font les Q&A, question and answer,
ouais.
Que je vais faire avec eux autres quand les Giants viennent en ville. Fait que tu sais, ils m'ont rien dit spécial qu'ils vont faire quelque chose de spécial pour les 20 ans, mais ils font toujours quelque chose de spécial pour leurs joueurs. Fait que ça va être, même s'ils passent pas ça, ils m'ont déjà honoré assez, de toute façon.
Puis ça donne, ils t'invitent contre les Giants, vos grands rivaux avec les Dodgers de Los Angeles. Ça, c'était vraiment le Canadien nordique, mais en Californie, Eric.
Exactement. On les haït. On n'aime pas l'orange. Les autres, ils n'aiment pas le bleu. Les autres, on n'aime pas l'orange.
Moi, écoute, je me souviens d'un affrontement que tu avais eu avec Barry Bonds à un certain moment. J'ai des souvenirs vagues, je sais pas trop. Tu le retires-tu? Il frappe-tu un coup de circuit? Jean-Sébastien, t'as-tu l'extrait? Il l'a sorti. Bon, ben écoute, je veux pas te faire vivre des mauvais souvenirs. Écoutons. 2-2. C'était tout. Mais je me souviens quand même, Éric, t'as perdu ce duel. Ben, je veux dire, t'as perdu ce duel-là. N'as pas perdu beaucoup, mais t'as perdu ce duel-là. Écoute, c'était tout un affrontement entre toi et Barry Bonds. Un des frappeurs les plus redoutables que t'as affronté dans ta carrière?
Facilement le meilleur de l'histoire, à part Otani. Je veux dire, le meilleur frappeur, c'est un des joueurs qui a plus influencé la game. Puis il était incroyable. Mais c'est vraiment le plus beau moment que j'ai eu de ma vie parce que il y a une petite histoire en arrière de ça aussi que quand on était au Japon, on a fait un on a fait pas un bet, hein, mais on avait un accord qu'on avait parlé justement parce qu'il disait tout le, monde que tout le monde le walkait, tout le monde on le mettait ses sentiers avec une free pass. Puis moi je dis gars, là, si c'est pas un safe situation qui était 3 points d'avance, mais là je vais t'affronter. Puis je pense que c'est 1 an et demi après un appel à même. Puis j'ai eu la chance, on m'a regardé. Puis j'étais pas supposé lancer aucun change-up. J'ai lancé une courbe. Puis à 0 balle 2 prises, qui est peut-être à 1 pouce ou 2 à l'extérieur à droite. Puis après ça, j'ai commencé à lancer juste des fastballs. Fait que lui, il savait on était 1 contre 1. C'est le meilleur au monde dans ce temps-là. Moi, j'étais au top de ma carrière. C'est vraiment été le plus beau moment parce que tous les joueurs se sont levés. On dirait que tout le monde le savait un peu. Tous les joueurs dans les deux gars se sont levés debout. Après ça, tous les fans se sont levés debout. Tout a ralenti. C'est vraiment incroyable. C'est juste le fait de, quand t'es jeune, t'es à Mascouche, tu vas être un joueur de hockey. Tu penses pas que tu vas être une monticule, jouer contre le meilleur joueur au monde, avec 55 000 personnes alentour de toi, avec les TV, tout. Tu penses pas à ça, tu sais. Quand t'arrives sur le monticule, là, je me suis dit, gars, c'est là que je vais me mesurer au meilleur au monde. C'est vraiment le plus beau moment que j'ai eu dans ma carrière. Il m'a battu. Il a fait 2 home runs. Il y en a un qui était à pause balle. Vous avez sûrement pas vu. C'est le 3e pitch, je pense.
OK.
Il a déjà fait un home run pause balle qui était quasiment sur son genou à 101 ou 102 000 à l'heure. Puis après ça, il y a eu genre, j'ai eu en fait 2 bons lancers à l'intérieur. Après ça, il a frappé un circuit au champ centre qui m'a quasiment décapité la tête. Puis mon deuxième but qui était Alexis Torra, je pense. Même chose. Il a quasiment passé au-dessus de son gant puis il est sorti au champ centre. Puis la façon qu'il frappait, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un moment incroyable de ma carrière.
Éric, plusieurs messages, plusieurs questions également sur la messagerie texte 98985. David de Stansted qui demande en fait, ton surnom c'était Game Over. Bon ben, d'où vient ce nom puis qui a commencé à te nommer Game Over?
Game Over, c'est une bonne histoire, parce que ça va prendre un petit peu de temps, parce que notre clubby qui s'occupe de nous autres, dans le fond, c'est quasiment notre nounou, là.
Mm-hmm.
Il s'occupe de tout ce qu'on fait, il fait notre lavage, il, tous nos petits caprices qu'on a, la bouffe, là, tout ce qu'on a besoin. Il s'occupe de lui. Lui, c'est un artiste, c'est vraiment un bon artiste. Puis lui, souvent, quand, mettons, il y avait certains records d'équipe, des choses comme ça, il écrivait une balle, il faisait un beau dessin sur une balle, puis il donnait ça en tant que souvenir ou en tant que cadeau. Puis c'est lui qui est arrivé avec le Game Over, un logo qui était un hologramme de Game Over avec ma face. Lui, il a fait ça lui-même. Puis il y avait un autre gars aussi qui travaillait avec les Dodgers. Ils ont fait ça juste pour le fun. T'sais, ils écrivaient ça, bizarre, ça serait le fun. Puis tout. Ils ont envoyé ça à les Dodgers au front office. Puis ils ont commencé à l'utiliser. Je pense que c'était peut-être 2-3 semaines après que j'ai commencé à être un closer avec les Dodgers. Puis ils ont dit Game Over, ça a continué. Puis avec la toune en plus de Guns N' Roses, c'était vraiment incroyable parce que c'est vraiment pas été quelque chose qu'on a décidé ensemble. Même la tune de Guns N' Roses,
ouais. J'ai
décidé partant. C'était pas quelque chose que j'avais décidé avant. C'est quand j'étais partant, j'ai décidé de l'avoir. En plus, avec lui qui fait ça, notre clubby qui fait le dessin. Puis après ça, c'est l'équipe, le propriétaire de l'équipe qui était propriétaire de Fox dans le temps. Puis il y avait beaucoup de films. Eux autres faisaient beaucoup de films. Fait qu'ils ont vraiment une belle entrée. Puis il y avait vraiment quelque chose de spécial, puis les fans ont embarqué là-dessus, tout le monde a embarqué, tout le monde a vraiment, vraiment adoré, puis moi, c'était le meilleur moment de ma vie, je pense. C'est le meilleur 3-4 ans de ma vie.
Éric, faut s'arrêter. Comme les autres invités qu'on a pour une période de temps, à un moment donné, il y a des pauses qu'il faut faire, puis on n'a pas le choix. D'autres questions, d'autres commentaires à Éric Gagné qui est avec nous.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
This would be awesome. Is Juris. And the Dodgers have earned a split of the first 2 games of the series. Gagné with his 84th consecutive save. The
victory goes to... Alors, 84 parties sauvegardées de suite pour mon invité, Éric Gagné, en 2002 et 2004. Éric, à ce moment-là, là, t'étais invincible. Tu devais te sentir invincible.
oui, c'est fou comment on parlait de l'effet boule de neige. Je sais, quand ça va, quand ça va bien, ça va bien. La confiance grandit à chaque fois. Puis c'est vraiment été comme tu disais, 2-3 ans là, incroyable. Puisque j'ai eu la chance d'avoir des bons joueurs en arrière de moi. Puis c'était surreal comme comme deux ans, parce que tout allait bien. Mettons, je faisais un mauvais lancer, mais les autres, ils frappaient pas la balle. Ou quand je faisais un bon lancer, tu sais, il y avait de la bonne défensive en arrière de moi. J'ai eu deux, trois fois que Sean Green a volé au moins deux fois qu'elle a retiré un goal au marbre. J'ai eu Dave Roberts qui a volé un home run à Houston. Puis, non, j'ai été chanceux. J'ai été à la bonne place au bon moment. J'ai eu du fun à faire ça. C'est quasiment, je regarde ça, j'ai 84 en ligne, c'est fou, là, parce que c'est pas juste moi qui allait bien, c'est toute l'équipe au complet, là. On parle de mon 84, mais mon 85e save que j'ai pas passé, c'est à cause que la balle a pogné une petite roche à terre, puis elle a resté basse, puis elle a été en dessous du gant de mon premier but. C'était même pas une erreur, c'était vraiment un mode bon, là. Tu sais, ça aurait pas arrivé après mon deuxième, après mon 20e ou mon 40e. Ça a duré 84 en ligne, donc, T'étais chanceux,
mais chacun fait sa chance, puis t'as été le releveur le plus redoutable du baseball majeur à ce moment. Et ta carrière a pris une direction complètement différente, Éric, parce que t'as commencé comme lanceur partant où ça allait pas très bien comme lanceur partant.
Non, vraiment pas bien. Mais écoute, des mineurs, qu'est-ce qui arrive avec les Dodgers? Eux, ils croyaient beaucoup en lançant 400-500 manches, puis tous les prospects étaient des partants. Puis je pense que moi j'adore ça aussi comme
philosophie.
Solution, je pense.
Ouais.
Philosophie, exactement. Excuse-moi, j'ai de la misère, là.
Il n'y a pas de problème.
Comme philosophie. Puis je pense que ça, c'est veux pas. Tu sais, t'as besoin d'apprendre. Puis moi, j'ai eu les deux, trois premières années que ça a bien été. J'avais des up and down, je montais, je descendais dans le 3. Puis c'était pas mon style. En tant que lanceur partant, faut que tu contrôles un petit peu tes émotions. Moi, en tant que joueur de hockey, je pense que j'étais plus un gars qui allait à 100%, 100% l'effort à 100%, un lanceur émotionnel. Puis je pense que ça fitait pas mal plus ma personnalité d'arriver là en tant que releveur. Puis j'ai été chanceux parce que veux pas. C'était un gars comme Jeff Shaw qui a pris sa retraite, il a lancé les expos avant, après ça, Cincinnati, puis il a été échangé pour les Dodgers, puis il avait une belle carrière, ça allait toujours bien. Les deux, trois premières années d'avant ça, ça allait bien, mais il a pris sa carrière parce qu'il voulait être avec sa famille. Il a pris sa retraite parce qu'il voulait être avec sa famille un petit peu plus souvent. Fait que lui, il a pris sa retraite, fait qu'on avait petit closer, ils ont décidé, gars, moi, j'aurais demandé au camp d'entraînement, donnez-moi une chance, parce que ça allait pas bien pendant tout au début, les deux, trois premières années, ça allait pas bien. Fait que je dis, on va recommencer à zéro, j'ai déjà lancé en tant que releveur avec l'équipe Canada, fait que donnez-moi une chance. Puis depuis ce temps-là, tu sais, ça a bien été. J'ai eu la chance de partir en bullpen un bullpen de comédie qui appelle tout en groupe. Après deux, trois semaines, mais là, ils m'ont donné un job. Mais comme tu dis, les deux, trois premières années, c'était vraiment pas facile. Parce que veux pas que les Dodgers, ils ont beaucoup d'argent, puis ils peuvent se permettre de l'acheter des joueurs. Les lanceurs partants, il y en avait 3-4 qui ont à chaque année qui ramenaient des nouveaux joueurs. Puis c'était pas facile, mais écoute, j'ai eu la chance d'être releveur, puis j'ai sauté sa chance.
Éric, t'as évoqué le nom de Jeff Shaw qui a déjà joué avec les Expos. Il y a un message de Sophie sur la messagerie texte. En tant que Québécois, est-ce que tu crois un retour possible du baseball majeur à Montréal? Et si oui, qu'est-ce que tu pensais de la garde partagée qui avait été proposée entre Tampa et Montréal?
Oui, j'y crois, retour des Expos. C'est sûr que la garde partagée, ça change complètement la vieille institut de baseball qui est là. Tu sais, moi, j'aurais cru c'est sûr que ça aurait été un petit peu difficile à rentrer aux joueurs. Mais veux pas, t'es dans l'année, t'as deux marchés différents, ça peut grandir. Puis moi, je me suis dit, gars, ça aurait marché parce que veux pas, les médias sociaux, c'est le double de fans que tu peux avoir. Puis je pense qu'à Tampa, il y a beaucoup de Québécois, il y a beaucoup de Canadiens. Ça aurait été vraiment. D'après moi, j'aurais aimé ça. C'est sûr que c'est complètement différent. C'est comme vieux sport, c'est difficile de dire ça à Tampa, de dire on change complètement ça de A à Z. Mais moi, je crois que la ville de Montréal est capable d'avoir une équipe à eux autres tout seuls. C'est sûr qu'ils voient les choses, c'est pas comme avant. L'économie est différente. La façon que l'argent rentre est complètement différente qu'il était avant. Avant, c'était juste les droits de télévision. Là, ça change complètement avec les médias sociaux. C'est complètement différent. Puis moi, j'y crois énormément. J'espère que ça va arriver parce que je pense qu'il y a beaucoup de fans à Montréal. C'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps. On a besoin d'un beau stade, on a besoin d'une belle place qui va être accessible à tous les gens dans le centre-ville, qui va être le fun à aller pour les étés. Moi, j'aimerais ça faire l'hiver. Même si c'est pas 40 000 personnes, t'as pas besoin de tant de monde que ça. T'as 15 000, 20 000 personnes, un beau stade qui à chaque 10-15 ans, tu bouges un petit peu, tu changes de place, tu fais un beau parc après. Et tu penses au futur un petit peu à la place de dire on fait juste un gros stade en béton puis on le laisse là. Je pense que ça serait le point de Montréal. Je pense que Montréal, ils ont besoin d'une deuxième chance, je pense. Et je pense que, surtout par rapport au baseball, juste dans le monde, juste grandir la popularité du sport, Montréal, c'est vraiment européen un petit peu. Ça aide énormément le baseball, la MLB.
Est-ce qu'on t'a déjà approché, par exemple, pour faire partie d'un groupe pour ramener le club à Montréal? Ou pas du tout?
Non, j'ai jamais parlé à personne. Écoute, je connais beaucoup de monde qui étaient vraiment impliqués là-dedans, mais j'ai jamais eu la chance de parler au groupe. Moi, personnellement, ça aurait été le fun, j'aurais aimé ça m'impliquer. Mais non, j'ai jamais été approché, non, rien.
Éric, tu vas voir, si tu te lances un podcast, par exemple, tu vas recevoir instantanément des messages de gens. Puis peu importe ce que tu fais, même si c'est bon, ils vont dire que t'es pas bon ou que tu poses pas les bonnes questions. Puis là, j'ai quelqu'un qui s'est pas nommé, qui me dit que j'ai peut-être peur d'aborder un sujet qui est pas le fun, le rapport Mitchell en 2007, où on faisait...
C'est pour ça que j'en ai parlé.
Ouais, c'est ça. C'est toi-même qui en a parlé, puis tu disais que t'es en paix avec toi-même depuis quoi, 4-5 ans, puis tu peux regarder ton trophée sans rien. Mais moi, ma question, ça fait partie de ça, mais je me souviens de ce que tu as dit quand il y a eu le rapport Mitchell. Tu as dit à l'époque que tu allais vivre avec ça toute ta vie et que tu allais devoir expliquer tout ça à tes enfants. Moi, ce que je veux savoir, parce que tes enfants à l'époque étaient plus jeunes, je veux savoir ce que tu leur as dit et comment ils ont réagi.
Ils étaient vraiment jeunes. On va dire de quoi? Tu sais, c'est là mon plus vieux, 18 ans, 19 ans, il joue au hockey. Mais tu sais, c'est des questions, c'est des choses qu'il faut que je réponde. C'est des fois que je vois du positif, que gars, il n'y a pas de raccourci. Tu peux pas prendre de shortcut. Moi, j'aurais peut-être pas encore là, mais j'aurais lancé peut-être un 4, 5, 6 ans de plus. Pas prendre de shortcut. En fait, tu sais, j'ai fait des erreurs. J'espère que moi, mon but là-dedans, c'est pas d'effacer l'erreur. C'est d'utiliser en tournant en tant que positif, montrer aux jeunes au Québec que c'est. Tu veux tricher, mais ça marche pas de même. Tu peux pas faire ça. Tu vas vivre avec. Toute ma vie, j'ai travaillé tellement fort pour me rendre là. Puis, comme tu dis, il va y avoir 2, 3, 4 personnes qui vont me voir, ils vont dire, il a triché. Tout ce que j'ai fait est effacé. Moi, il faut que je vive avec ça. Ça vient avec le territoire. Puis, j'ai fait l'erreur. Je peux pas blâmer personne. J'ai pas d'excuses. J'ai rien. J'ai pris une mauvaise décision. La décision que j'ai prise, j'aurais dû y penser plus longtemps. Il y a bien des choses que j'aimerais changer, mais je peux pas. Fait que moi, qu'est-ce que je veux faire avec ça, c'est tourner ça en positif, un message de dire, gars, ça vaut pas la peine, c'est pas la solution, puis d'être vraiment intelligent par rapport à ça, de parler à tout le monde, là c'est sûr, il y a le testing, puis tout, c'est complètement différent,
ouais.
Mais tu sais, mais veux pas, il y en a quand même encore qui vont essayer, c'est normal, là, c'est tentant énormément, là, que le monde pense juste à penser à l'argent, tu sais, c'est difficile de se concentrer quand ça va pas bien des mineurs, ça fait 4-5 ans, t'as pas une scène, tu fais 4-5 000 des mineurs, puis t'es chanceux de faire ça pendant 5-6 mois maximum. Tu sais, c'est pas facile. Mais ça, c'est toutes des excuses. Fait que moi, j'essayais de faire un message, j'ai OK, les jeunes, c'est pas la route que tu veux faire. C'est pas ça du tout. Ça, c'est tricher, ça donne rien. C'est juste un pansement pour un an ou deux ans ou trois ans, n'importe quoi. Tu sais, ça t'aidera pas. Tu vas enlever tout ce que tu as travaillé toute ta vie. Ça va vraiment diminuer tout, puis tu vas vivre avec ça. Puis c'est vraiment pour moi, en plus, le plus gros regret que j'ai là-dedans, c'est qu'il y a du monde qui n'ont pas triché, puis ça va mettre un doute sur ces personnes-là.
Ah ouais.
Je pense que c'est ça le plus gros regret. Parce que, tu sais, veux pas, il y a du monde qui ont lancé, ils étaient tout clean, puis il y a des records, le monde va dire, t'as pas gagné ton Cy Young, des choses comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses que le monde va dire. C'est correct, ils ont le droit à leur opinion. Moi, j'ai mon opinion aussi. Je sais ce que j'ai fait, que moi, j'aurais jamais dû faire ça, mais je peux pas changer ça. Tu sais, je peux pas dire, c'est pas d'excuse. Hein. C'est moi qui ai pris la décision, je suis un adulte. J'espère juste que les jeunes vont prendre la bonne décision, vont voir mon histoire. Puis j'espère juste que même que ce soit une personne qui dise, gars, je sais qu'Éric a fait ça, mais ça vaut pas la peine. Puis j'ai écouté son message. Puis j'espère juste que ça va aider les jeunes dans ce côté-là.
Alors, les jeunes, peu importe le sport, venez d'entendre Éric Gagné. Là, je pense que le conseil est clair. Essayez pas de prendre des raccourcis. Faites ce que vous avez à faire dans votre sport que vous pratiquez. Essayez pas de tricher. À un moment donné, c'est sûr que ça va vous rattraper. Éric, on va.
Parce que oui. Avec la passion, surtout avec la passion, là, ça a l'air tout que tu as fait dans ta carrière. Puis, tu veux pas vivre avec un regret. Tu veux vivre avec vraiment fier de ce que tu as fait. C'est ça que ça m'avait un petit peu, excuse-moi.
Éric Gagné, c'est déjà la fin. Je n'aurais pris encore plus, puis je suis convaincu que les auditeurs et les auditrices n'auraient pris plus également. Je te remercie infiniment de ta grande générosité ce soir et de ton temps. Très apprécié. Ça a été une entrevue très agréable à réaliser. Puis écoute, j'ai bien hâte d'entendre ton podcast avec Maxime Martin éventuellement.
Parfait. Fait que, écoutez ça, c'est Game Over le podcast. Puis, je te remercie, on a eu vraiment du plaisir, puis vous avez vraiment le fun.
Merci beaucoup, Éric. À bientôt.
Parfait.
Salut, bye-bye. À une prochaine. Alors voilà, Éric Gagné.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.